Week-end première.
À 7h37, on accueille Didier Demorcy. Bonjour Didier.
Bonjour.
Vous nous proposez aujourd'hui de nous parler d'entraide et de coopération entre les herbivores dans la savane africaine.
Oui, je ne sais pas vous Charlotte, mais moi j'ai la chance d'avoir de bons voisins. On échange des nouvelles, on se prête des outils, on se donne de petits coups de main et on partage les surplus de nos jardins. Œufs, châtaignes, noix, confitures, courgettes, jus de pommes, que sais-je encore, sont déposés sur le coin d'une table ou au pied d'une porte, sans même parfois que l'on sache exactement de chez qui ça vient.
Bah vous avez de la chance, Didier, c'est important d'avoir de bons voisins.
Effectivement. Et donc aujourd'hui, je vous invite à visiter avec moi une savane africaine particulièrement renommée, les 60 000 km² de la plaine du Serengeti, située à cheval entre la Tanzanie et le Kenya, deux fois la taille de la Belgique tout de même. Il faut imaginer un paysage ouvert, légèrement vallonné, une sorte de lande où se dressent ça et là quelques bosquets d'arbres et d'arbustes. Malgré les hautes herbes, le regard porte loin. On aperçoit d'immenses concentrations d'ongulés, vous savez, les cousins de nos vaches, de nos ânes et de nos moutons, qui marchent eux aussi sur leurs ongles. Gnous, zèbres, buffles, éléphants, girafes, élans du Cap, topis, antilopes Sing Sing, impalas, gazelles de Grant, gazelles de Thompson, etc., etc. Plus de 4 millions d'individus dans la seule plaine du Serengeti. Ce qui correspond à une densité de 70 habitants au kilomètre carré. Chacun de ces animaux, c'est-à-dire telle gazelle ou telle antilope, tel individu en particulier donc, dispose pour ses propres besoins de 15 000 mètres carrés de savane. Une surface de 150 mètres sur 100, sur laquelle il ou elle doit non seulement se nourrir et s'abreuver, mais aussi grandir et prendre des forces, jouer, se faire des amis, s'orienter, se souvenir des bons coins, trouver l'âme sœur, procréer, prendre soin de ses jeunes, surveiller les alentours, guetter les prédateurs, lutter, fuir, s'abriter, se reposer et, le plus sereinement possible, mourir. Une vie entière basée sur les ressources de deux terrains de foot.
Et en fait, deux terrains de foot, c'est pas énorme.
Oui, d'autant que, comme vous l'aurez remarqué Charlotte au cours de mon énumération, non seulement cette savane abrite un nombre incroyable d'individus, mais elle accueille aussi un très grand nombre d'espèces différentes, alors qu'il s'agit pourtant d'un milieu assez pauvre, une sorte de steppe chaude en fait. Et donc, comment cette multitude d'herbivores réussissent-ils à cohabiter et à prospérer en si grand nombre dans de telles conditions? Est-ce qu'ils passent leur journée et leur vie à se disputer leur maigre pitance à grands coups de rivalité entre individus et d'affrontements entre espèces, comme le voudrait cette fameuse et odieuse loi de la jungle, cette survie du plus apte, cette compétition pour la vie, cette loi du plus fort dont certains scientifiques nous rabâchent les oreilles depuis si longtemps. Eh bien non, au contraire, toutes ces espèces, tous ces individus entretiennent en fait des relations de bon voisinage.
Toutes ces espèces donc vivent en totale harmonie, c'est un peu l'Éden votre savane Didier.
Je ne le dirais pas exactement comme ça, mais en tout cas, ce sont des environnements où on peut assez facilement observer des comportements d'entraide et de coopération. Au niveau alimentaire, par exemple. Durant la saison sèche, les buffles du Cap, les impalas communes et les topis du Serengeti se nourrissent d'une même plante. Mais en fait, ils se la partagent, car chacun en mange des parties différentes, pousses terminales, tiges ou feuilles basses. Et plus encore, en prenant leur part, les premiers à se servir, les buffles, rendent accessibles aux convives suivants des portions de la plante qui sinon ne le seraient pas. Un autre exemple, au cours de leur très célèbre migration annuelle, les zèbres des plaines, les gnous bleus et les gazelles de Thompson parcourent les mêmes habitats et parturent les mêmes endroits. Mais par contre, ils varient la durée de leur séjour et consomment des parties différentes des herbes disponibles. Au cours de leur évolution et à partir de leurs ancêtres communs, les ongulés se sont donc diversifiés et ont progressivement acquis des tailles, des formes, des comportements, des stratégies de reproduction et des habiletés corporelles extrêmement différentes, avec pour résultat des êtres aussi dissemblables que les girafes, les hippopotames ou les éléphants.
Bon, mais il ne suffit pas d'avoir des formes différentes pour manger différemment.
C'est vrai. Parallèlement à ce processus de différenciation corporelle, toutes ces espèces ont également développé des préférences nutritionnelles et des capacités digestives spécifiques, allant par exemple chez les ruminants jusqu'à abriter dans leurs estomacs des micro-organismes qui les rendent capables de digérer les parties les plus coriaces des végétaux. Toutes ces espèces se sont donc progressivement adaptées aux ressources et aux opportunités que leur offraient les milieux environnants, mais elles se sont également adaptées aux adaptations de leurs voisines. Les transformations acquises par tel groupe d'individus induisant le développement d'une nouvelle capacité chez tel autre. Nouvelle capacité qui, par ailleurs, favorisait l'émergence de telle ou telle compétence chez d'autres espèces encore. Etc., etc. Toutes ces façons de vivre et tous ces modes d'être se sont à la fois diversifiés, entrelacés et coordonnés, créant ainsi une multitude de niches écologiques voisines qui permettent à tous et à toutes d'accéder à des sources de nourriture variées, en évitant donc, autant que faire se peut, les situations de rivalité et de compétition. Parce que bon, bien sûr, cela oblige parfois à composer et à faire des compromis, mais qui n'a pas envie de bien s'entendre avec ses voisins.
Mais comme quoi, c'est quand même un peu l'Éden, votre savane, Didier. Merci. En tout cas, parfois, on peut dire que la vie est bien faite. Ça, c'est bien. Merci en tout cas pour cette chronique qui nous a fait voyager tout en nous apprenant pas mal de choses. Il est 7h43, la suite.